French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Pour le conjoint, ça peut être compliqué. Si on part, s'il y en a un qui part avec un travail et que l'autre n'a pas encore de travail, c'est une vraie problématique. Et que si le conjoint ne trouve pas de travail ou ne s'intègre pas rapidement dans le pays, ça cause des problèmes dans le couple et ça cause aussi souvent des retours anticipés. Cette problématique du conjoint est vraiment réelle. C'est-à-dire qu'il y a 80% des décisions d'expatriation sont prises avec le conjoint. Et il y a en fait énormément d'expatriations refusées. Nous, on le voit pas, ça reste derrière, du choix du conjoint, qui ne souhaite pas partir parce qu'il veut pas quitter son boulot, parce que voilà. Et ça, ça existait pas il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Le conjoint, il avait aucun problème, il partait, et ce n'est pas que français. Donc c'est très intéressant de voir cette évolution de l'expatriation. Ça veut dire que ça s'équilibre un peu plus, et c'est quand même positif.
Armelle Perbin a toujours rêvé de partir vivre à l'étranger. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Après quelques années passées dans divers pays d'Asie, la voilà de retour à Paris, en famille. Et puisqu'au cours de ses années à l'étranger, elle a appris tant de choses, rempli une multitude de missions professionnelles, Armelle se réjouit vraiment à l'idée d'appliquer ses nouvelles compétences et connaissances en France. Sauf qu'en fait, elle se heurte à un mur. Les recruteurs ne la rappellent pas, et c'est alors qu'elle découvre ce terme peu flatteur de CV à trous. Alors rapidement, elle s'interroge. Comment valoriser les expériences en tout genre que l'on vit à l'étranger? Et plus particulièrement celles des conjoints suiveurs qui n'ont pas forcément l'autorisation d'exercer une activité professionnelle à proprement parler hors de France, mais dont les quotidiens sont bien remplis également. Et bah c'est en fait ce qui a amené Armelle à lancer son entreprise il y a un peu plus de 10 ans, Absolutely French. Alors aujourd'hui, je vous présente Armelle. Et je vais la laisser vous raconter sa réinvention lors de son retour en France, ainsi que vous expliquer comment elle accompagne les conjoints d'expat, ses conjoints à elle, comme elle aime les appeler, dans leur intégration et pour développer leur réseau, une des clés de la valorisation de leurs compétences. Au fait, moi c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
J'ai 5 enfants, j'aime beaucoup mes enfants, je trouve que c'est très riche et je suis partie en expatriation pour eux à la base parce que j'étais nulle en anglais quand j'étais petite et je me suis jurée que mes enfants seraient bilingues.
Ah ouais.
qui n'auraient pas à porter ce poids de ne pas être bilingue parce que je trouve que c'est une chance énorme et qu'on peut si on peut l'offrir à ses enfants c'est assez merveilleux et donc j'ai cherché le mari qui pourrait coller avec ce
projet de vie.
Et je l'ai trouvé, j'ai eu une chance incroyable et voilà, et on est parti et donc mes enfants sont pas tous bilingues parce que j'ai une petite qui a 2 ans donc elle l'est pas encore,
qui est née en France
voilà, mais voilà, les autres se débrouillent plutôt bien dans certaines langues. J'ai été conjointe d'expatriés dans 7 pays différents. J'ai suivi mon mari. Ça a été des expériences très riches. Mais quand je suis rentrée d'Inde, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. Parce que j'ai un CV à trous, comme beaucoup de conjoints d'expatriés. J'ai fait des choses très variées, très différentes. Et les entreprises ici en France trouvaient pas ça très intéressant. Ce qui m'a beaucoup choquée, je trouvais que j'avais plutôt un CV intéressant. Et ça m'a un peu ouvert les yeux en me disant mince, bon, visiblement je colle pas avec plein de cases en France. Et je me suis dit qu'il fallait aider cette population de conjoints d'expatriés à comprendre un petit peu tout ce qui pouvait se passer quand on était à l'étranger et comment on pouvait optimiser ce temps. Moi, on m'avait jamais montré ça et donc j'ai créé une société qui répond à ce besoin-là. Donc à développer des compétences, prendre en compte que ce temps, il est compté. Et cette problématique de comment on développe ses compétences, comment on rend son expérience d'expatriation intéressante sur le marché du travail. Et donc j'ai réfléchi à comment faire ça le mieux possible. Et pour moi, c'était le premier outil pour bien s'intégrer dans un pays, c'est la langue.
Effectivement, pour Armel, la langue, c'est quelque chose de très important pour pouvoir s'intégrer dans son pays d'accueil. D'ailleurs, quand on a échangé des mails pour programmer cette interview, j'ai découvert une petite citation en bas de sa signature. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlerez à sa tête. Si vous parlez à un homme dans sa langue, vous parlerez à son cœur. Une citation de Nelson Mandela. Cette citation pourrait presque résumer finalement l'entreprise qu'Armel a créée lors de son retour d'Inde, alors que son CV à trous posait un peu problème pour trouver un emploi. C'est normal en même temps, 19 ans. Cette entreprise, elle l'a imaginée pour accompagner les conjoints d'expatriés venant s'installer en France. Et ça s'appelle Absolutely French. Absolument français.
Pour moi, la langue est une ouverture vers la culture de l'autre. Et donc, plus on parle de langue, plus on connaît de cultures différentes. J'ai commencé à 19 ans, moi. Je suis partie fille au père en Angleterre. Donc, avant, j'étais dans un petit village de campagne où il y avait plus de vaches que d'habitants. À Bouvron, ça s'appelle. Pour les gens qui connaissent, c'est entre Nantes et Saint-Nazaire, à côté de Savenay. C'est un village assez moche, je dois dire. Il y a un carrefour et une église pour faire simple. Voilà. Mais les gens sont adorables. Voilà. Mais je me sentais un petit peu étriquée dans ce village et donc moi je suis partie déjà à 19 ans parce que je me sentais pas à ma place en fait là où j'étais. J'étais dans une famille anglaise dans Londres et en fait j'ai absolument pas appris l'anglais. Je me suis retrouvée avec des Français. Et après, je me suis dit, mais quel dommage de pas avoir optimisé ce temps-là. Mais j'étais trop jeune, j'avais envie de faire la fête, de rencontrer des gens. Après, j'ai travaillé en hôtellerie-restauration pendant 6 ou 7 ans dans les restaurants gastronomiques. C'est un métier que j'ai adoré parce qu'on rentre en scène un peu. Pour moi, c'était un peu comme du théâtre. Tu rentres sur scène et tu as un autre rôle. Tu es là pour servir les gens, les accompagner et tout ça. Ça m'a énormément servi pour mon travail actuel. Je trouve que c'est un très, très beau travail pour les valeurs d'accompagnement, de service qui servent après toute ta vie, en fait. Donc, je trouve que c'est une bonne école de la vie.
Et tu faisais quoi dans ces restaurants?
J'étais chef de rang. Je m'occupais de la salle en général du restaurant, donc avec d'autres serveurs. Et voilà. Donc c'est des restaurants gastronomiques, hein, donc c'est les services à la cloche. Voilà, il y a tout un cérémonial, mais qui est hyper sympa parce que moi ça m'a permis de découvrir toutes sortes de gens en fait. Il y a des gens qui se payent ce restaurant parce qu'ils ont mis 3 ans de côté de l'argent pour s'offrir ce repas en amoureux, voilà. Et puis il y en a qui vont tous les jours. Donc on a une variété de personnes assez intéressantes dans ce métier-là. Et ça permet d'être adaptable aussi à toutes les catégories de personnes petit à petit. Donc c'est un beau métier en tout cas. Et puis après, il y a eu le premier contrat de mon mari et on est parti en Chine. Et ça a été le début des expatriations. Voilà. Et j'ai appris le chinois. Je suis rentrée je me suis retrouvée professeure pour la première fois en Chine. Expérience assez incroyable à l'époque j'avais 25 ans. Je me suis retrouvée devant une classe de 100 Chinois qui étaient en master. Je leur enseignais l'anglais alors que j'étais moins bonne qu'eux en anglais. C'était assez challenging. J'ai énormément.
C'est une belle
appris.
Revanche, toi qui cherchais justement à apprendre l'anglais, qui était complexée par ça.
J'ai bien appris l'anglais avec eux.
Ouais.
J'ai été obligée puisque bon voilà, ils étaient meilleurs que moi, donc je travaillais énormément sur mes cours pour préparer, etc. Et puis il y a eu, il y avait des gens au premier rang qui étaient voilà, qui parlaient comme la BBC, hein. Donc j'ai appris à me servir d'eux et à ce que ce soit eux presque qui fassent le cours à ma place. Donc j'ai appris des techniques de professeurs très intéressantes sur qui me servent encore aujourd'hui en fait, hein. Puis du coup on faisait des jeux, je les sortais dehors, on allait voir la nature ensemble. Enfin, j'ai trouvé d'autres biais pour les intéresser au cours et c'était très intéressant. Donc voilà, ça c'était la Chine et puis après on a eu la Malaisie, le Vietnam, l'Inde et je me suis retrouvée un petit peu prof de FLE à chaque fois.
De FLE, donc de français pour les personnes qui ne sont pas natives françaises quoi.
Oui.
Et alors ça t'a plu ces expériences ?
Oui, moi j'ai adoré, hein, j'ai adoré pouvoir faire des expériences différentes dans des pays différents et ça permettait, donc je me suis en Inde notamment, j'avais des collègues donc qui étaient indiennes, donc on se sent très proche, on partage vraiment des choses très intéressantes quand on travaille avec des collègues qui sont du pays et de la culture et c'est très très riche. Et puis j'ai eu des âges de tout petit de 6 ans à des adultes, hein. Donc j'ai pu tester plein de choses très intéressantes sur les modes d'apprentissage et j'ai finalement passé un diplôme après en Inde parce que je me suis dit si je repars, ce métier est quand même transférable partout. J'ai aussi découvert de par ces expatriations qu'il y a beaucoup de pays où les conjoints d'expatriés n'ont pas le droit de travailler. Et donc, moi, en tant que conjointe, je signais un papier, en fait, avant de partir, qui disait « je m'engage à ne pas travailler », ce qui est quand même assez incroyable. Alors, bon, oui. Et encore pour le Mozambique, donc on est rentré il y a 2 ans du Mozambique, on a passé 2 ans au Mozambique, eh bien, je ne pouvais pas travailler. J'avais pas le droit, j'avais pas le… Donc, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de pays où le conjoint d'expatrié n'a pas le droit de travailler. Et il y a une association très bien qui s'appelle Permits Foundation pour les expatriés qui veulent aller voir avant de partir comment ça se passe. Regardez sur Permits Foundation, il y a la liste de tous les pays. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui n'autorisent pas le conjoint à travailler. Et voilà, vous avez les étapes orange où c'est en cours, où il y a certaines situations où on peut, et vert où on peut vraiment travailler dans les pays. Et c'est bien de le savoir avant de partir, ça peut aider.
Après l'Asie, te voilà de retour en France. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais que tu vas rester un petit moment en France ou tu ne le savais pas encore ?
C'était négocié avec mon mari. Ben, après, quand on a fait plusieurs pays comme ça à la suite, j'avais un diplôme. Donc, parce qu'en rentrant de Chine, j'ai passé un Master 2 en commerce international que je n'ai jamais pu utiliser en fait parce que je suis repartie directement au Vietnam, Malaisie, Inde. Et du coup, je voulais vraiment me servir de ce diplôme et avoir un travail qui m'intéresse, etc. Je voulais plus être prof de FLE. J'avais envie d'autre chose, de voir autre chose. Donc voilà, je suis arrivée d'Inde et je me suis dit, bon, je vais aller avec mon petit diplôme frapper aux portes. Bon, le petit diplôme n'a pas suffi. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Ma seule expérience que j'avais, donc c'était professeur de FLE. Mais alors, en France, si tu n'as pas un master 2 en FLE, bon, t'es payé vraiment pas beaucoup. Je voulais pas non plus dévaloriser ce que j'avais appris, etc. Et donc, je me suis dit, la seule expérience que j'ai valable en France, c'est l'hôtellerie-restauration. Donc, j'y suis retournée. J'ai postulé et j'ai tenu 3 jours. À cette époque-là, j'avais 4 enfants. Mais en fait, j'avais quand même cette idée que c'était merveilleux, que tout ça. Donc j'avais. Et ce qui est vrai, hein, j'y suis retournée, c'est vrai. Mais là où j'y suis retournée, il y avait un patron, il y avait. Et je me suis dit, non, je peux pas. En fait, je vais pas pouvoir avoir des gens qui me donnent des ordres sur un. Enfin, je me sentais pas du tout à ma place. Ça correspondait pas. Donc, je pense que l'expatriation, c'est aussi qu'on découvre plein d'autres choses qu'on sait faire et on n'a plus envie de. Bon, bah, de.
Oui, pas forcément reprendre la vie d'avant, quoi, parce qu'on a changé nous aussi, en fait.
Exactement. Mais il faut cheminer, quoi. Donc, voilà, il y a eu ce cheminement.
Tu peux me parler justement de ce cheminement ? Comment est-ce que tu en es arrivé à ces conclusions ? J'imagine que ce n'est pas une prise de conscience super facile quand tu penses que tu retournes à quelque chose que tu connais.
Non, c'est très long parce que déjà, j'ai cherché un boulot là-dedans, j'ai eu des entretiens, etc. Après, j'ai été prise, j'ai commencé, voilà. Et c'est en travaillant que je me suis dit, bon, ça va pas. Et il y a aussi le cheminement de, bon, qu'est-ce que je vais faire? Là, ça va pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, moi, j'ai tracé j'ai pris une feuille et je me suis écrit dessus qu'est-ce que j'aimais faire, quelles étaient mes contraintes. Donc, je ne veux pas travailler le week-end, je ne veux pas travailler le soir, etc. J'ai vraiment fait tout une grande carte comme ça. Et de là est né Absolutely French, en fait.
C'est vrai?
Parce que dans ma tête, j'avais comment je peux aider les conjoints d'expatriés et comment je vais. Et donc, j'aimais faire la cuisine, j'aimais Paris, j'aimais les promenades. C'est vraiment, mais typiquement, tout Absolutely French, c'est moi, en fait. C'est assez étonnant à la base parce que je me suis dit, ça ne marchera pas. Et en fait, en construisant petit à petit, tu te rends compte qu'il y a des choses... si toi, ça te plaît aussi à d'autres. Enfin, bon. Et il y avait les jeux. Les jeux, le théâtre, etc. Donc voilà, et il y avait les rencontres, bien sûr. Et voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai construit ma méthode d'enseignement du français très spécifique aux conjoints d'expatriés pour les intégrer ici. Mais le cheminement a pris très longtemps. Hein. Déjà, il faut prendre confiance en soi, se dire qu'on va être capable. Donc, j'ai été accompagnée. Je suis rentrée dans des groupes de femmes qui montent des projets entrepreneuriales. Et puis, j'ai été accompagnée. Et puis, voilà, parce que mon projet de base n'est pas du tout celui qu'il est à l'heure actuelle. Il a beaucoup changé, évolué, grandi.
Avec toi, quoi.
Ouais, voilà.
Pourquoi c'était important pour toi de reprendre cette activité professionnelle à ton retour en France?
Parce que j'avais envie de m'épanouir professionnellement, intellectuellement. Je pense qu'au bout d'un moment... Et parce qu'il y a aussi que quand on est à l'étranger, c'est très riche. On découvre plein de choses, on rencontre plein de gens, il y a une richesse. En fait, intellectuellement, c'est hyper intéressant. Et puis surtout quand tu changes de pays tout le temps, en fait, t'es stimulé tout le temps, en fait. Et là, tu rentres et tu te dis, bon, il va plus y avoir de stimulation. Hein. Donc, il va en falloir trouver d'autres.
Ouais.
Et pour moi, la stimulation, c'était forcément d'aller trouver du travail.
En fait, en recherche de cette petite étincelle qui t'animait à l'étranger et l'entrepreneuriat, je veux dire, si on parle d'aventure et de découverte, j'imagine qu'on est en plein dedans.
Exactement.
Et finalement, c'est la naissance de l'entreprise d'Armel, Absolutely French, absolument français. Avec cette entreprise, Armel ambitionne d'aider, de soutenir et de permettre aux conjoints d'expatriés venant du monde entier de s'intégrer en France, dans leur pays d'expatriation.
Alors, au début, Absolutely French, il était dans ma maison, à Villeneuve-Saint-Georges, donc en dehors de Paris. Ce qui était une grosse erreur, hein, parce que les expatriés ont peur de sortir de Paris. Quand ils arrivent, c'est un vrai frein d'aller vers l'extérieur. Bon, j'ai quand même réussi à faire venir des gens. On a commencé comme ça des cours à la maison, dans ma cuisine, etc. Et d'ailleurs, j'ai gardé des très bons contacts avec ces gens-là, parce que c'était les
premiers.
Ouais. Donc c'était très riche pour moi, en tout cas. Donc il y a eu cette erreur de début de démarrage un peu, et puis j'ai voulu au démarrage vendre mon service directement aux expats, ce qui était aussi une grosse erreur puisque en fait les expatriés n'étaient pas prêts à payer ce service-là. En fait, nous, comme on était plus qu'une école de français, on est vraiment pour moi un centre d'intégration. Eh bien, on fait pas des cours à 10 euros de l'heure. Parce que évidemment, il y a tout autour, il y a la communauté, on organise des soirées, etc. Et les expats, ils veulent pas payer pour un service un peu plus cher.
Puis ils se rendent pas forcément compte, même en fait, du besoin avant d'être un peu dans la douleur de l'arrivée aussi, peut-être.
Moi, il m'a fallu quand même 3 expats et dont un plantage pour me rendre compte que ne pas apprendre la langue était une grosse erreur. Mais il faut avoir cheminé, il faut avoir et puis ça dépend tellement des pays. En fait, il y a des pays où on peut ne pas apprendre la langue, il va y avoir une communauté assez forte, on va trouver du travail facilement, enfin voilà. Mais si vous venez à Paris, c'est une ville compliquée pour les expatriés parce que les Parisiens sont très occupés, ils restent ensemble, voilà. Et si on parle pas français, on trouve pas de travail.
« Si Armelle propose ses services à des expatriés du monde entier venant s'installer en France, les conseils qu'elle s'apprête à vous donner s'appliquent à tout le monde. Armelle vous livre quelques petits conseils pour vous intégrer et vous sentir chez vous, à l'étranger.
Eh bien, en fait, dans l'intégration, il y a plusieurs pôles. Il y a, bien sûr, parler la langue, mais la langue est un outil pour comprendre la culture, donc les différences culturelles qu'on peut vivre et qui sont en général des chocs hein, pour beaucoup. Donc, il y a la compréhension de la culture, donc ce que je parle des différences culturelles, la compréhension de l'environnement. En fait, dans chaque pays où vous allez, il y a un environnement différent, il y a une façon de faire les choses différentes. Donc, nous, c'est pour ça qu'il y a des jeux de pistes. C'est bien sûr pour visiter Paris, avoir le côté sympa, beau, tout ça. Mais il y a surtout le côté pratique. Et nous, on les emmène à la poste, par exemple, et on leur montre réellement comment on envoie un colis à la poste. C'est pas juste, bon, voilà, c'est la poste, là. Non, on va avec eux, voilà. Et on fait ça pour plein d'endroits. À la mairie, on va à la mairie, on leur montre ce qu'ils vont trouver à la mairie. On va à la gare, on va dans les bibliothèques, parce que les gens ne savent pas que la bibliothèque à Paris, enfin dans toutes les villes en France, c'est gratuit, qu'il suffit d'avoir une carte et qu'ils vont trouver des journaux espagnols, des journaux anglais à disposition, des livres pour leurs enfants, etc. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses sur l'environnement qui débloquent beaucoup de choses une fois qu'on sait tout ça. Et ça, c'est si on veut s'intégrer vite, il faut comprendre l'environnement rapidement. Puis après, dans la culture, on a aussi mis la gastronomie française, parce que les Français aiment beaucoup parler de nourriture, de ce qu'ils vont manger le soir et le lendemain et le week-end. Donc, on a des cours de cuisine où on cuisine avec eux, entrée, plat, dessert, on mange avec eux, on leur montre le marché, on va sur le marché avec eux, on leur montre à quoi sert la crème fraîche. Il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout comment utiliser la crème fraîche, comment utiliser certains produits français. Et puis, le point qui est très important, c'est le développer son réseau. En fait, quand on arrive dans un nouveau pays, il faut pouvoir rencontrer des gens, développer son réseau, tant pour trouver du travail que pour être bien socialement. On a besoin de ça. Donc nous, chez Absolutely French, on propose des soirées deux fois par mois. On a des workshops aussi à thématique. Les membres de la communauté proposent eux-mêmes des workshops. Et c'est vraiment aussi pour les faire monter en compétences aussi. Ils vont animer un atelier, donc ça va leur donner confiance en eux. Donc voilà, c'est tout à fait bénéfique.
Il y a quelques mois tout juste, Armelle a publié un livre intitulé « Gérer la double carrière des couples expatriés, le nouveau défi des DRH ». Dans la préface qui a été écrite par Delphine Gadet, qui est l'ancienne responsable mobilité internationale pour Total Energy, on peut lire, dès la première ligne, « Monsieur s'expatrie, Madame suit ». C'était certainement vrai il y a encore 10 ou 20 ans. Mais la situation n'est-elle pas en train de changer aujourd'hui ?
Oui, alors, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais zéro homme. Et maintenant, on est à 27%. Donc, en 10 ans, c'est assez incroyable, l'évolution. Et ce qu'on a remarqué, donc, il y a cette évolution-là, il y a aussi l'évolution des personnes gays. Et ça, c'est pareil, on en avait zéro au début. Et, alors, j'ai pas le pourcentage, mais on en a de plus en plus aussi. Donc, on voit qu'il y a une diversité qui se fait tant au niveau du genre que de l'orientation sexuelle. Je pense que c'est dû aux sociétés hein, qui ont décidé de favoriser la diversité et l'inclusion.
Tu travailles aussi avec les DRH et du coup, ça t'a amené à écrire ce livre « Gérer la double carrière des couples expatriés, le nouveau défi des DRH ». Alors, comment est-ce que ça se faisait avant ? Comment est-ce que ça évolue ? Et comment est-ce que tu travailles avec les DRH, justement ?
Les gens qui écoutent le podcast savent qu'en étant expatrié, voilà, pour le conjoint, ça peut être compliqué. Si on part, s'il y en a un qui part avec un travail et que l'autre a pas encore de travail, c'est une vraie problématique. Et que si le conjoint ne trouve pas de travail ou ne s'intègre pas rapidement dans le pays, ça cause des problèmes dans le couple et ça cause aussi souvent des retours
anticipés.
Donc, les sociétés ont vraiment maintenant besoin de ça, puisque d'ailleurs, Delphine Gadet me l'a très bien dit aussi, c'est que elle, dans son recrutement maintenant des talents étrangers, cette problématique du conjoint est vraiment réelle. C'est-à-dire qu'il y a, je n'ai plus les chiffres, je crois que c'est 80% des décisions d'expatriation sont prises avec le conjoint.
C'est tout, j'ai envie de dire.
Ouais, non, mais je veux dire que du choix du pays, hein. Donc qui est modifié suivant le choix du conjoint. Et il y a en fait énormément d'expatriations refusées. Nous, on le voit pas, ça reste derrière du choix du conjoint qui ne souhaite pas partir. Parce qu'il veut pas quitter son boulot, parce que voilà. Et ça existait pas il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Le conjoint, il avait aucun problème, il partait. Mais maintenant, et ce n'est pas que français. C'est-à-dire que en Inde, il y a des conjoints qui disent non, moi je pars pas. En Chine, dans n'importe quel pays. Donc c'est plus franco-français, enfin ou européen ou voilà. C'est aussi dans les autres pays. Donc c'est très intéressant de voir cette évolution de l'expatriation. Ça veut dire que ça s'équilibre. Un peu plus, et c'est quand même positif. Pour moi, pourquoi là on s'occupe un peu plus des conjoints, c'est parce qu'il y a une vraie problématique de recrutement. Avant, on le prenait pas du tout en compte parce que il y avait pas de problématique de recrutement. Là, on est dans une guerre des talents. Donc, et on l'est vraiment en ce moment. Donc, ça devient vraiment primordial de prendre en compte le conjoint et que ça se passe bien et qu'il soit content pour que l'expatrié il reste dans la boîte aussi. Et si on va et s'occuper du conjoint, c'est aussi montrer qu'on s'implique pour lui et donc l'expatrié va vouloir rester, il va plus s'impliquer, il va rester plus longtemps dans l'entreprise. Enfin, c'est complètement bénéfique pour les sociétés et les sociétés l'ont bien comprise et c'est pour ça qu'elles commencent à payer des services comme ça. Alors, faut savoir quand même, je tiens à garder le chiffre, hein, 11% des conjoints d'expatriés seulement sont accompagnés par les sociétés. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais voilà, ça évolue positivement puisque ça devient un vrai sujet actuellement.
Vous avez des gens qui viennent un peu en traînant des pieds, mais à qui on a dit « si, ça va te faire du bien » et finalement, ça se transforme aussi.
En fait, on se rend compte que ceux qui ont le plus de mal dans l'apprentissage du français, c'est ceux à qui on a dit « vas-y », qu'on a poussé un peu et qui n'avaient pas pris la décision au départ. Donc moi, c'est pour ça que je dis aux boîtes, ne les poussez pas. Il faut aussi que ça chemine. Des fois, ils mettent un an à venir nous voir. Ils arrivent, ils voient qu'ils n'y arrivent pas et puis finalement, ils viennent nous voir. Mais moi, je trouve qu'il faut pas trop forcer. Donc, c'est plutôt aussi un dialogue aussi avec l'entreprise en disant on les laisse venir et puis ça va se faire. Mais on a eu effectivement des arrivées comme ça et un peu poussées. Et bon, il faut plus de temps, mais ça se fait. Ils y arrivent très bien parce que on est tellement, enfin, on est beaucoup dans la bienveillance et dans l'écoute. Hein. Ici, c'est du cocooning hein, chez nous. Hein. On prend beaucoup de temps avec chacun, on prend beaucoup de café. En fait, on a entre nous, dès qu'on sent qu'il y en a un qui va pas bien, on échange dans l'équipe et on va essayer d'aller voir un peu plus près ce qui va pas et le mettre en relation. En fait, on a aussi des systèmes de parrainage entre eux. Donc, les anciens parrainent les nouveaux qui arrivent. Et on prête une attention particulière aux premières expatriations parce que c'est ceux qui sont le plus en demande au démarrage. Les deux, trois premiers mois sont un peu cruciaux. Il ne faut pas que ça se rate de là-dessus. Voilà. Donc on fait très attention à eux.
Je ne compte plus les messages que je reçois sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, par email, de notre communauté d'auditeurs et d'auditrices de French Expat me parlant de leurs difficultés à se faire des amis. Se faire un réseau, c'est bien, mais se faire des amitiés durables, des gens sur qui on peut compter et qui peuvent compter sur nous en retour. C'est pas si facile, en fait, à l'étranger.
Moi, je dis toujours à mes conjoints, créez des habitudes. Créez-vous des habitudes. Allez toujours dans le même bar à la même heure, par exemple, et vous allez finir par rencontrer les gens qui sont au bar à la même heure que vous. Et à force, vous allez commencer par leur dire bonjour, puis après, ça va aller un peu plus loin et un peu plus loin. Et ça, c'est bien sûr, les bars à Paris, pour ça, c'est formidable. Mais il y a aussi aller faire du sport, aller faire du bénévolat, aller rencontrer des gens, sortez un peu de votre zone de confort, mais essayez de le faire régulièrement. C'est pas « je vais une fois à la faire du sport et je vais rencontrer quelqu'un », ça va être y aller toujours un peu à la même heure pour rencontrer les gens et faites un truc aussi qui vous aime, que vous aimez. Donc allez chercher, là par exemple on a Esteban qui est arrivé d'Argentine et lui il adore la pêche Et donc, nous, on s'est empressé de chercher dans le dans notre communauté qui aime la pêche et on les a mis ensemble. Mais par exemple, s'il a pas ça, eh bien, allez sur Meetup, par exemple, regardez les groupes de pêche et puis allez se mettre dans une activité qu'on aime. Déjà, ça facilite beaucoup puisqu'on va pouvoir discuter avec des gens qui aiment la même chose et ça crée des liens beaucoup plus vite. Mais je trouve que faire des choses ensemble, on crée beaucoup plus facilement des liens. Donc, ça peut être une activité spécifique, mais ça peut aussi être du bénévolat. Moi, je trouve que le bénévolat pour créer des liens, c'est incroyable. Donc, et je dis ça en ayant fait pendant longtemps et ça m'a beaucoup développé mon réseau. Quand je suis rentrée d'Inde, j'ai fait du bénévolat pendant 7 ans pour une association qui s'appelle PWN, Professional Women Network. Et j'ai développé mon réseau comme ça et mes premiers clients sont arrivés de PWN. Alors que je m'attendais, c'était pas du tout le but et moi, c'était plutôt pour rencontrer des gens, développer mes compétences, etc. Mais je trouve que c'est quand même des choses où on construit des choses ensemble, on a un objectif ensemble, donc forcément, on crée des liens assez forts, quoi.
Et pour en revenir au début de ma conversation avec Armelle, souvenez-vous, elle me racontait son retour un peu douloureux d'Inde, il y avait une dizaine d'années, où elle pensait avoir un CV plutôt intéressant, mais qui n'intéressait pas vraiment les recruteurs. Elle le comparait à des trous dans une raquette. Une question à laquelle il convient de répondre, c'est comment valoriser ces expériences un peu extraordinaires ou encore hors normes que l'on peut avoir à l'étranger, afin de préparer son retour éventuel ou même une prochaine expatriation.
Dans le livre, je parle beaucoup de ce que c'est qu'un conjoint d'expat et quelles sont les compétences qu'il développe, parce que je crois beaucoup que les gens ne se rendent pas compte qu'en vivant à l'étranger, ils développent énormément de choses qui sont très, très intéressantes sur le marché du travail et qui ne sont forcément, on n'en a pas conscience au départ. Mais quand on est expat, par exemple, on est très adaptable. Ça, c'est une chose, je vais pas vous dire 100%, mais je dirais 98% des expats sont très adaptables parce qu'on est passé d'une culture à l'autre, parce qu'on est passé d'un pays à l'autre. Voilà, on a dû s'adapter très vite, refaire la même chose ailleurs, etc. Donc, on a forcément cette capacité. En général, on est aussi très multiculturel, on est très ouvert d'esprit. En fait, les gens qui partent, déjà, il y a une ouverture d'esprit qui est incroyable.
Pour accepter de partir tout court, ouais.
Voilà. Et puis aussi, il y a ce truc de... on est capable de sortir de notre zone de confort. Et ça, moi, je le dis toujours aux conjoints d'expats qui arrivent, vous vous rendez pas compte, en fait. Vous faites partie des 10% des gens qui sont prêts à bouger. Mais il y en a 90% qui ne bougent pas. Donc, vous avez cette capacité à sortir de votre zone de confort et à faire autre chose et à vous reconstruire ailleurs et encore et encore et encore. Et ça, c'est incroyable. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, il faut savoir comprendre ça et le transcrire dans le monde du travail et parler de ses soft skills sur son CV en disant, voilà, moi, j'ai vécu là, donc je suis adaptable. Voilà. Et on est des problem solvers aussi. Ça, je trouve... Parce que quand on parle dans plein de pays, on doit trouver des solutions autres parce que en fait on est dans une autre culture qu'on ne connaît pas, donc on doit trouver une autre façon de faire. Et c'est incroyable. Et moi je le retrouve beaucoup dans les conjoints qu'on accompagne. C'est vraiment aussi quelque chose qui est développé beaucoup chez les expatriés. Voilà. Donc prendre conscience de ça et se dire voilà j'ai tout ça. Et après il y a d'autres choses hein, parce que par exemple. Moi, je vois bien qu'à force de partir très, très rapidement de pays en pays, on est aussi très, très organisé. C'est-à-dire qu'on est capable de faire nos valises en un mois. On va faire tac, 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 on va louer la baraque, ça va aller très vite. Et ça, cette capacité d'organisation, c'est aussi quelque chose très dû à l'expatriation, je pense, pour beaucoup.
Aujourd'hui, Armelle est une entrepreneure épanouie. Elle vit à Paris avec sa famille. Elle se nourrit beaucoup des échanges qu'elle a avec ses différents expatriés et leurs conjoints. Et elle parvient véritablement à valoriser ses expériences à l'étranger pour les transmettre et transmettre tout ce qu'elle a appris à ses coachés ou ses conjoints, comme elle les appelle. Je vous le disais il y a un instant, Armelle a sorti un livre en début d'année 2022. Dans celui-ci, elle cherche véritablement à offrir des outils aux DRH. Elle veut changer les choses de l'intérieur.
« pourquoi j'ai fait ce livre. En fait, j'avais un besoin viscéral. En fait, c'était vraiment un truc, il fallait que je le fasse. Je vois mes conjoints d'expat qu'on accompagne et je me disais, mais c'est pas possible que les boîtes aient pas conscience de l'impact d'accompagner la double carrière dans l'expatriation et les résultats que ça va avoir pour leur entreprise. Et je me disais, il y a des choses tellement simples à faire. Il n'y a pas besoin forcément de prendre Absolutely French. Ils peuvent faire des choses autres et beaucoup plus faciles. Voilà, s'ils ont décidé de pas mettre le budget, ils peuvent faire autre chose. Et pour moi, c'était très important de leur donner des clés faciles pour mettre en place quelque chose, même minime, au sein de leur société pour aider les conjoints et favoriser cette double carrière. Parce que voilà, c'est quelque chose qui tient profondément à cœur et je voulais que ça infuse un peu partout et pas que aux clients qu'on accompagne, parce que nous, les clients qu'on accompagne, ils sont déjà sensibles à ce sujet. Mais il y a plein d'autres boîtes qui le sont pas. Et il y a aussi des petites sociétés qui vont avoir 2-3 expats seulement et qui vont pas forcément faire attention aux conjoints. Donc c'est aussi pour sensibiliser ces entreprises un peu plus petites à cette problématique qui devient cruciale dans l'expatriation. Donc c'est né de ça. Et puis après, il y a eu des rencontres. Et puis petit à petit, le livre s'est construit. J'ai lu aussi beaucoup d'études. Hein. Il faut venir pour écrire un livre. Il faut beaucoup beaucoup lire d'études, mais voilà, je voulais avoir des clés simples et voilà, le résultat, c'était vraiment ça, avoir quelque chose de pratique pour les gens qui travaillent dans les sociétés.
Qu'est-ce qui t'a le plus surprise au cours de tes recherches ?
Que des personnes ne veuillent pas parler de la double carrière. En fait, j'ai contacté beaucoup de gens pour mon livre, pour témoigner, pour avoir des avis, avoir un peu des... Et ce qui m'a le plus surprise, c'est quelqu'un qui travaille. Alors, il y a deux choses, hein, que certains responsables mobilité internationale me disent que pour eux, c'est pas un sujet. Et puis il y a eu aussi quelque chose que j'ai vraiment découvert avec le livre. Donc j'ai interviewé quelqu'un, donc je peux pas citer parce qu'il n'a pas voulu que je donne le nom de la société, mais qui est responsable mobilité internationale à l'étranger, en Asie, pour une société asiatique. Et en fait, eux, quand j'ai discuté de ce sujet-là, il m'a dit, mais nous, c'est pas un sujet. Nous, le conjoint ne fait pas partie de notre politique d'expatriation et il n'est pas du tout pris en compte. Et donc là, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait l'Europe qui s'occupait des conjoints, qui était très en avance sur le sujet, etc. Et toute l'Asie où, en fait, il n'y a pas du tout cette problématique. C'est-à-dire que le conjoint, il reste chez lui, l'expat souvent part tout seul. Et qui a même et donc le conjoint reste avec ses enfants chez lui, donc c'est très rare en fait dans les expatriations asiatiques.
C'est pas famille quoi.
Non, c'est pas famille.
Waouh. Mmh. OK.
Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée et je me suis dit c'est incroyable la différence de traitement, mais je me dis qu'avec cette guerre des talents qui se lance et le fait que maintenant en Asie, la femme travaille beaucoup quand même hein, de plus en plus. Donc, ils vont avoir cette problématique. Ils sont juste un peu en retard par rapport à l'Europe, mais ça va leur tomber dessus à eux aussi, je pense. Mais voilà, il y a un décalage et je l'ai vu dans les enquêtes et les études aussi que j'ai lues.
Ouais. Mmh. C'est super intéressant. Donc, une différence culturelle finalement dans cette prise en charge familiale ou en tout cas globale de l'expatriation. Vers quoi est-ce qu'on s'oriente ? Du coup, tu nous parles de cette guerre de talents, du coup, où les entreprises doivent être encore plus compétitives pour attirer et surtout garder ces talents. Et c'est aussi vrai avec l'expatriation ?
Oui, et puis, pour moi, il y a aussi le fait de l'égalité homme-femme. En fait, on veut de l'égalité homme-femme partout, mais pas dans l'expatriation. Donc, moi, ça me posait aussi problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi... Parce qu'on est quand même à 80%, on va dire, encore de conjointes femmes. Pourquoi il n'y aurait pas d'égalité ?
Ouais.
Pourquoi il n'y aurait pas d'égalité non plus à ce sujet-là ? C'est tellement important. Là, nous, on voit en tout cas au sein d'Absolutely French que ça bouge, puisqu'on a des conjoints hommes. Mais est-ce que ça bouge comme ça dans toutes les sociétés ? Je ne suis pas sûre.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, peut-être avant de partir la première fois ou la deuxième, du coup, après l'Angleterre ?
Moi, j'aurais aimé qu'on me dise « Attention, ça passe très vite. Mets-toi tout de suite à faire quelque chose. Mets-toi au travail tout de suite et réfléchis tout de suite à ton retour. Moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes conjoints. Je leur dis, là, vous rendez pas compte, mais 3 ans, c'est comme ça. Ça file à toute vitesse. Donc, j'aurais voulu qu'on me dise, pense à ton retour, pense à ta vision de ce que tu veux être dans 10 ans et fais en sorte que ton expatriation te serve pour arriver à cet objectif. Parce qu'en fait, on est tellement dans le rush, dans les enfants, dans le déménagement, qu'on pense pas. Enfin, nous, surtout les conjoints, hein, mais même les expatriés, hein, on est pris dans un mouvement et que c'est bien de réfléchir un peu, de se poser, de se dire qu'est-ce que je vais faire, où je veux aller, quel est mon chemin et comment je peux y arriver. Et pas hésiter à faire des formations. Moi, je trouve que, j'en ai une, elle est incroyable. Elle est d'Angola. Elle était infirmière en Angola. Elle est arrivée ici. Elle a appris le français avec nous super rapidement, très très bien, très motivée, tout ça. Et elle nous a dit, mais moi, là, je veux faire une formation. Je dis, bah très bien, regarde et tout. Et elle cherche en France. Elle trouve pas ce qu'elle veut. Elle en a trouvé une au Portugal. Du coup, elle fait une formation en ligne avec le Portugal parce que c'est portugais comme sa langue, comme l'Angola. Et elle y va de temps en temps pour faire les jours où elle a besoin. Et je me dis, elle a tout compris à l'expatriation. En fait, elle va servir. Elle va revenir. Elle aura un diplôme supplémentaire de ce qu'elle a voulu faire, mais qu'elle n'avait pas le temps de faire avant. Enfin voilà, et je pense qu'elle va même pouvoir travailler en France avec ce diplôme puisqu'il sera européen. Et ça lui ouvrira les portes aussi en France. Et elle est arrivée il n'y a même pas un an. Hein. Donc, incroyable.
Il y a des gens qui vont très vite.
Oui, oui. Et première expat.
Armelle, avant de nous quitter, est-ce que tu as un dernier petit conseil, un dernier word of wisdom, comme on dit en anglais, que tu pourrais partager avec notre audience ?
Il faut pas oublier que chaque expatrié vit un choc culturel. Je pense que tu as sûrement dû en parler. Mais nous, on l'a vu il y a pas longtemps là. On en a un qui est vraiment en plein dans le choc culturel.
Ça peut être violent.
Ça peut être violent. Mais il faut accepter aussi que ça descende. Que voilà, qu'on passe par une phase qui descend et que ça arrive à tous les expatriés. Moi, je dis bien que ça soit conjoint ou expat, on le vit tous à un moment. Et moi, on me l'avait pas expliqué lors de mes premières expatriations. Je l'ai découvert il y a que 10 ans, hein, donc. Mais en fait, on descend des fois très très bas. Et en fait, c'est un cycle. Donc, on va descendre, mais on va remonter. Donc, faut rester assez positif et faut pas rester tout seul dans ces moments-là. Surtout ça, aller voir des gens, essayer de
se faire accompagner ou voir du monde.
Voilà.
Armelle, je te dis un grand merci, c'était passionnant comme discussion. Je te souhaite du coup une excellente continuation. Pas de nouvelle expatriation a priori ?
On va attendre 1 ou 2 ans.
Ah, quand même !
Ouais, on est expat ou on ne l'est pas.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'après on a envie.
On raccroche vraiment jamais.
Ouais, je crois qu'on aime bien après repartir.
Très bien. Eh ben écoute, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Armelle.
C'est moi, merci.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier infiniment Armelle Perbin pour cette très chouette rencontre. J'espère que les conseils qu'elle vous aura prodigués pourront vous aider, que vous soyez en couple d'ailleurs ou non. Je pense que ces conseils en termes d'intégration et d'amitié à l'étranger peuvent s'appliquer à tout le monde et même en fait pas forcément hors de France. Tradition oblige, je vous propose d'écouter quelques petits indices pour savoir où on part la semaine prochaine.
Bah oui, j'étais pas loin du burn-out. Enfin, clairement, je suis pas passée loin d'y laisser ma santé mentale. Donc, j'ai fait un reset et après, je me suis réorganisée un peu en me disant, allez, maintenant, il faut que tu te sois un peu plus, tu te fasses mettre des limites. En fait, j'ai pas de limites. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas de limites. Je repousse toujours les limites. J'ai l'impression que je peux toujours faire plus. Et ça, c'est pas bon. Il faut se mettre des barrières parce que sinon, en fait, on se fait happer. Je savais même plus ce que c'était que de m'asseoir dans mon canapé et de rien faire. J'avais l'impression de perdre mon temps.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une fantastique fin de semaine et je vous dis à mardi pour de nouvelles histoires. Ça me fait rire parce que t'appelles tes... Je sais pas si on dit coachés, tes machins. Je les appelle mes conjoints.
Oui, j'en ai beaucoup.
Donc je précise, Armelle n'est pas polygame.
Oui, non, c'est sûr.
Oui. Ça me fait rire.
Oui.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.